Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux pour le livre de Françoise Ladouès, Jésus, qui est-il ? Approche culturelle, publiée aux éditions Nouvelle Cité. Alors je ne suis pas très sûr qu'on réussisse complètement ce soir à répondre à la question posée par le titre de ce livre, Jésus, qui est-il ? Il pourrait y avoir derrière cette question une quête spirituelle, chercher le Christ dans sa vie, chercher à se rapprocher du divin. Mais non, ce n'est pas le propos de ce livre. Jésus, qui est-il ? Approche culturelle. On pourrait parler du Jésus de l'histoire, si ce titre n'était déjà pris par un autre historien. C'est un regard laïque qui est posé ici, un regard d'historienne. Ça n'empêche pas une lecture croyante des évangiles, mais c'est une autre démarche que la sienne. Alors l'auteur, c'est Françoise Ladouès. Avant de la présenter un peu, je voudrais dire que je risque de ne pas être très objectif ce soir parce qu'on se connaît bien tous les deux. Françoise est une amie. Je suis Emmanuel Labaïs, je travaille sur la radio RCF Bordeaux et c'est là qu'on s'est rencontrés en 1992. Voilà, je vous laisse calculer. La radio, c'était à ce moment-là son troisième mi-temps, son troisième travail à mi-temps. En plus de deux mi-temps, elle en avait un troisième bénévole à la radio. Quand je l'ai connue, premier mi-temps, elle était animatrice pédagogique à la DDEC, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique. Elle assurait des formations auprès des enseignants débutants sur comment gérer une classe ou les cinq premières minutes d'un cours. Et puis, un sujet s'est vite imposé dans ses formations, celui du fait religieux. Comment prendre en compte dans l'enseignement la dimension religieuse de la culture ? Comment repérer ce qui, dans notre culture, est influencé par le religieux ? Le directeur d'alors, Jean-Pierre Demoy, était aussi très sensible à l'idée de développer ses formations sur le fait religieux. Et c'est à partir de là qu'ont été lancées à Bordeaux chaque année, pendant 11 ou 12 ans, des sessions de formation sur le fait religieux, organisé par Françoise Ladouès. On y portait un regard scientifique sur le religieux, sur toutes les religions, à destination surtout des futurs enseignants. Et pour concrétiser ce travail qui était mené sur ces sessions, est né l'ISPRA, l'Institut supérieur de pédagogie et religion en Aquitaine, que Françoise Ladouès a créé et dirigé de 2008 à 2011. Et il forme aujourd'hui encore un diplôme universitaire de pédagogie du fait religieux, une création. Premier mi-temps, donc, animatrice pédagogique à la DDEC, naissance et direction de l'ISPRA. Et dans son deuxième mi-temps, Françoise Ladouès était enseignante en histoire à Bordeaux, d'abord en lycée, le Mirail, Notre-Dame, Saint-Jeunesse, et puis de 2000 à 2008 au collège Saint-Julien-Victoire, un collège catholique avec une forte proportion d'enfants musulmans du quartier. La question de l'enseignement du fait religieux s'y posait de plein fouet. Et puis en parallèle, pendant 10 ans, elle a aussi enseigné à des étudiants qui allaient devenir professeurs dans l'enseignement catholique. L'absence de culture religieuse était frappante dans les questions de ses élèves. Et ce livre doit beaucoup à cette période. Alors, mais dès les années 90, Françoise Ladouès posait déjà un regard d'historienne sur le religieux avec sa thèse sur les pèlerinages du Moyen-Âge, les pèlerinages au Moyen-Âge en Aquitaine, puisque depuis 1996, elle est docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse. Elle a aussi participé aux travaux du groupe des coordinateurs faits religieux du secrétariat général de l'enseignement catholique, c'était à Paris, de 2004 à 2011. Et pendant 6 ans, elle a participé à l'Observatoire des manuels et des programmes en publiant sur le site internet Enseignement et Religion des articles pour aider les enseignants à repérer ce qui a trait aux religieux dans les programmes scolaires. C'était jusqu'en 2012, soit un an après sa retraite. Car aujourd'hui, Françoise Ladouès est une jeune retraitée. Et c'est elle qui se forme maintenant en prenant des cours d'exégèse biblique au centre Sèvres de Paris. Elle va voir un peu plus près, de plus près, ses textes religieux, les lire, les étudier. Et elle participe aussi depuis 2011 à un groupe de recherche à Dijon lié à l'enseignement du fait religieux dans le cadre d'un master universitaire. Alors, d'autres livres sortiront-ils plus tard sur d'autres sujets ? Eh bien, c'est votre désir, Françoise Ladouès. Mais aujourd'hui, voici « Jésus, qui est-il ? Approche culturelle » aux éditions Nouvelle Cité. Alors, ce n'est pas votre premier livre. Vous avez publié en 1988 « Brève histoire de l'Église catholique » chez Desclés de Brouwer. Vous avez collaboré à la rédaction de Croire, chercher, agir chez Bayard. Vous avez publié des articles dans des revues spécialisées de catéchèse, car vous avez aussi travaillé à la pastorale de catéchèse du diocèse pour y développer l'audiovisuel. C'était dans les années 90. Et puis, dans un autre style, vous avez publié trois livres avec le père Alain Dagron chez Bayard, la série « À l'épreuve des évangiles », une restitution écrite des émissions radio Vigilance que vous faisiez tous les deux sur RCF Bordeaux. Et pour de nombreuses personnes, c'était un moment de radio très particulier et pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels. Alors, dans votre nouveau livre, Jésus qui est-il, on retrouve d'ailleurs par petites touches cette manière de lire la Bible que vous expérimentiez avec Alain Dagron dans cette émission. On le retrouve surtout dans la dernière partie de votre livre que vous avez intitulé « Lire ». Mais avant, on va aussi parler des deux autres parties. La première, question de base, et la deuxième, source et approfondissement. Alors maintenant, Françoise Ladouès, on va vous écouter. Moi, je vais me taire. Juste vous questionner de temps en temps, à commencer peut-être par votre motivation pour écrire ce livre. On voit bien dans votre parcours cette volonté de former, de transmettre. On sent aussi dans ce livre un évident souci pédagogique. Le moindre mot est expliqué, on comprend tout. Il y a une motivation pédagogique.
Complètement. Oui, j'ai commencé à avoir l'idée de faire ce livre quand je me suis rendu compte que d'abord mes étudiants qui avaient des questions sur ce sujet au programme, des questions sur Jésus, sur le christianisme et sur les autres religions. Et puis aussi mes collègues n'avaient aucune connaissance de base, des gens qui étaient censés avoir beaucoup de culture. Les étudiants avaient déjà une licence, une maîtrise, enfin bon, et mes collègues encore beaucoup plus. Ils n'avaient vraiment aucune culture là-dessus.
Ça vous a étonné, ça ?
Au début, oui. Puis je me suis rendu compte que la chose était la même avec les gens dans la population. Et que finalement, en France, tout ce qui est religieux a un statut particulier. Et que finalement, il y a la culture, alors le cinéma, la littérature, enfin puis tout ce qui va avec. Et puis le religieux, souvent c'est un domaine réservé. On considère que c'est la même chose que la croyance, que la foi, que c'est personnel, que finalement, ceux qui ont de la culture là-dedans, ça devrait être seulement les croyants. Mais tout ce qui est religieux ne fait pas partie, pour les Français, quand on les interroge, de leur culture générale. Et ça, ça m'a beaucoup choquée, je dois dire. Donc je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose pour que le religieux entre dans la culture générale, au même titre que le reste.
Et alors, pour parler de Jésus, vous invitez dans ce livre, vous invitez le lecteur à avoir une Bible à côté de lui. Est-ce que ouvrir la Bible, ce n'est pas déjà une démarche religieuse ?
Mais certainement pas. Ouvrir un livre n'est jamais une démarche religieuse. C'est une démarche religieuse quand la personne qui ouvre le livre veut en faire une démarche religieuse. Mais ça dépend du lecteur. Un livre, ce n'est pas un statut pour un livre d'être un livre religieux. Alors évidemment, il y a matière à religieux. Encore que je pense qu'il y a matière à religieux dans beaucoup de livres. Mais dans la Bible, il y a matière à religieux. Mais c'est le lecteur qui fait de la Bible un livre religieux.
On peut lire la Bible comme n'importe quel texte historique.
Tout à fait. Alors, on peut lire la Bible comme n'importe quel livre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est au programme pour les élèves de l'enseignement public aussi bien que privé, c'est au programme de tout le monde, c'est un livre. Alors, vous dites comme n'importe quel livre historique, après ça poserait la question de savoir ce que c'est qu'un livre historique, mais effectivement, en France, enfin en français plus exactement, on dit généralement historique quand on parle de quelque chose qui sert à faire l'histoire. Donc, tout livre qui peut servir à faire l'histoire peut être mis dans la catégorie de historique. Ce qui ne veut pas dire la même chose que quand on dit qu'un fait est historique. Là, ça veut dire qu'il s'est réellement passé. Voilà. Ça, c'est un des problèmes de la langue française. Je dis par exemple, ça je l'explique dans le livre parce que c'est très important, Napoléon a gagné la bataille d'Austerlitz, c'est historique parce qu'on sait que c'est vrai. Bon, ça s'est passé. Mais je dis que, par exemple, les différents livres de la Bible permettent de faire l'histoire. Donc ce sont des documents historiques, même si tout ce qu'ils racontent ne s'est pas réellement passé. Voilà.
Est-ce que cette manière que vous avez d'envisager l'histoire ou le texte historique est quelque chose d'assez récent ? Quand on regarde votre bibliographie qui a servi à faire ce livre, ce ne sont quasiment que des ouvrages sortis au XXIe siècle.
Oui, parce que je préfère quand même donner au lecteur quelque chose qui est à peu près à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas une conception de l'histoire récente, non. Non, non. Je pense que l'esprit critique, la lecture critique, ça date du siècle dernier. Et après, les autres types de lectures que j'emploie aussi dans le livre sont même encore plus récents. Mais enfin, on a la lecture. Je ne peux pas faire un cours d'historiographie là parce que c'est peut-être pas tout à fait le lieu ici. Mais ce n'est pas quelque chose de récent.
Et vous parlez de lecture critique. Est-ce que votre livre pourrait heurter un chrétien convaincu qui lit la Bible régulièrement?
Alors, je ne sais pas si ça peut le heurter, mais ça ne devrait pas. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit est fait pour aider à entrer dans le texte, dans tout le texte, rien que le texte, mais en tenant compte du contexte. Bon, ce qui est une certaine manière de lire. Il est vrai que dans la dernière partie, je donne aussi des méthodes pour lire un peu en dehors du contexte. Bon. Mais alors, il y a des personnes qui peuvent être un peu choquées, mais je pense que des personnes un peu choquées, ce sont des personnes qui ne se sont pas posées encore ces questions. Et je pense que c'est important que les gens qui veulent connaître Jésus, et ce serait la même chose pour n'importe quel personnage religieux ou pas, c'est important qu'on se les pose ces questions. Par exemple, quand on a une histoire qui est racontée, est-ce que cette histoire raconte quelque chose qui s'est passé ou pas? C'est quand même une question de base.
Alors justement, entrons dans la première partie de votre livre, Françoise Ladouès, intitulée « Questions de base ». Dans chaque partie, un certain nombre de questions sont posées en tête de chapitre. Première question, Jésus a-t-il vraiment existé?
La réponse est oui. Alors c'est vrai qu'à certaines époques, on a essayé d'avoir un regard tellement distancié que les auteurs actuellement qui disent que Jésus n'a pas existé sont extrêmement rares. Enfin, je vous dis, j'ai lu quelque part qu'on a essayé de dire aussi que Napoléon n'avait pas existé, que Napoléon aurait été un mythe solaire et que les 12 avenues qui partent de l'Arc de Triomphe seraient un chiffre symbolique. Donc pour vous dire que c'est quand même un petit peu hurluberlu comme approche. Et je pense que pour Jésus, c'est pareil. Autant on va dire d'autres choses qui sont moins certaines, mais l'existence de Jésus, elle n'est mise en doute par personne. Oui. Je crois qu'il faut le dire aux jeunes, parce que au moins qu'ils aient des questions intelligentes. On peut avoir un regard critique sur certaines choses, mais pas sur ça.
Oui, vous dites qu'on a plus de documents sur Jésus que sur Platon, par exemple.
Ah oui, tout à fait. On a beaucoup de documents sur Jésus. Alors ça vient du fait des religions qui sont nées après Jésus et qui donc ont utilisé la vie de Jésus et la connaissance de Jésus. Donc du coup, les livres que l'on a n'ont peut-être pas la fiabilité historique que l'on voudrait, ça c'est possible.
Parce qu'ils ont été écrits par des croyants, c'est ça?
Voilà, la plupart des livres que l'on a sur Jésus ont été écrits par des croyants, pas seulement, et j'en fais la recension dans mon livre, mais essentiellement. Bon, mais au moins, ça donne la preuve de l'existence de Jésus, ça c'est une certitude.
Est-ce qu'on connaît la date de sa naissance?
À peu près, mais on n'a pas de certitude absolue, ni sur sa naissance, ni sur sa mort. On a fait des recoupements. Si vous voulez, on a essayé d'écrire l'histoire et de raconter l'histoire à partir de Jésus au Moyen-Âge. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Donc, Jésus n'est pas né en zéro.
Oui. Ni le 25 décembre, zéro.
Alors, le 25 décembre, certainement pas. Il y a une chance sur 365 qu'il soit né le 25 décembre. Zéro, non, parce qu'il y a eu une erreur. Mais enfin, il est né à peu près.
Vous dites erreur au Moyen-Âge, c'est parce que c'est au Moyen-Âge qu'on a décidé qu'on remettait les calendriers à zéro à partir de cette naissance.
Voilà, parce qu'au Moyen-Âge, le calendrier, jusque-là, était fait à partir de la naissance de l'Empire romain. Et comme le monde était chrétien, enfin le monde occidental était chrétien, on a voulu faire le calendrier à partir de la naissance de Jésus. Mais enfin, il y a eu une erreur.
Vous avancez la date de 6 avant Jésus-Christ pour la naissance.
Oui, bon, à peu près.
À peu près. Et la date de sa mort?
La date de sa mort, c'est pareil. On a beaucoup d'éléments dans les évangiles qui permettent de dater sa mort, mais justement, ils ne sont pas tous exactement concordants. Il a vécu à peu près 33 ans, donc on a une fourchette quand même de 3-4 ans. Mais alors, ça, c'est pour les années. Par contre, pour les jours, là, on n'a aucune certitude. Et en particulier pour le 25 décembre, je crois que c'est un exemple, mais je crois qu'il faut en parler. On a repris le solstice d'hiver, c'est-à-dire que voilà, il fallait donner un moment où la lumière renaissait, la lumière revenait. Et donc, c'est pour ça qu'on a repris une fête païenne et qu'on a intégré donc, la venue de Jésus à ce moment-là.
Est-ce qu'on sait où il est né ?
Alors, pas très bien non plus. La question est déjà un petit peu plus délicate. L'évangile dit qu'il est né à Bethléem. Mais on sait que, en fait, il y avait dans l'Ancien Testament une prédiction qui disait que Jésus, que le Messie devait naître à Bethléem. Donc, il est possible, pour ne pas dire probable, qu'il fallait absolument que les évangélistes fassent naître Jésus à Bethléem. La plupart des historiens, aujourd'hui, mais pas tous, la plupart des historiens pensent qu'il y a des chances qu'il soit né plus tôt à Nazareth, parce qu'il y a passé toute son enfance, et que toutes les raisons qui l'auraient amené à Bethléem, par exemple le recensement... On ne peut pas, par exemple, situer le recensement qui a eu lieu à cette époque-là. Ce n'est certainement pas l'année de la naissance de Jésus. Donc, beaucoup d'historiens pensent qu'il n'est pas né à Bethléem. Mais on n'a pas d'assurance là-dessus. Donc, si vous voulez que mon avis, ce n'est pas très important. Voilà.
Ce n'est pas très important, pourquoi ? Pour la foi du chrétien, d'être sûr d'une date, ou très important pour une démarche historique ?
Les deux. Quand on ne sait pas, ben, je crois que c'est mieux de dire on ne sait pas. Alors après, certaines personnes justement qui ont appris ça au catéchisme tiennent à ce que Jésus soit né à Bethléem. Peut-être, hein, mais voilà.
Dans ce livre, à un moment, vous posez cette question. Peut-on faire confiance aux évangiles pour une démarche intellectuelle ? On peut ou pas ?
Alors pour une démarche intellectuelle, oui. Pour une démarche historique, il faut être un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que les évangiles, je crois, clairement, ont deux objectifs. Le premier, c'est quand même un objectif théologique. L'évangile de Marc commence en disant évangile de Jésus, fils de Dieu. Voilà. Et l'évangile de Jean, c'est encore plus fort. Il commence par ce prologue qui est vraiment une démonstration théologique sur Jésus. Donc là, ils disent clairement que ils ne sont pas là pour raconter la vie de Jésus. Ils ont un projet théologique. Et à la fin de l'évangile de Jean, il y a aussi « Tout ceci a été écrit pour que vous croyiez ». Donc, c'est très clair. Donc, cette démarche théologique entraîne aussi des récits. Et il y a dans tous les évangiles un certain nombre de récits qu'il faut prendre un par un, parce que certains, effectivement, racontent des événements dont certains sont certainement historiques. Donc, première démarche d'abord théologique et un petit peu historique. Et puis quand même, il y a un désir justement de raconter. Et dans l'évangile de Luc, Luc, lui, se dit historien. Il dit « Je suis un historien, je me suis renseigné, je me suis documenté et je répète ce que j'ai entendu. Voilà. »
Et on peut le croire ?
Alors, on peut le croire comme un historien de l'époque. C'est-à-dire que voilà, vous avez beaucoup d'historiens de l'Antiquité, Hérodote, Thucydide, enfin, tous les historiens grecs, latins, qui avaient les mêmes méthodes que Luc. Bon. Alors, il est évident que Hérodote et Thucydide et Luc n'ont pas les mêmes méthodes historiques que les historiens du XXIe siècle, ça c'est certain. Et donc, il faut le prendre avec beaucoup de nuances, mais voilà, on fait confiance à Thucydide, on peut faire confiance à Luc, avec toutes les réserves de l'époque. Ce n'est pas une réserve évangélique, c'est une réserve de l'époque.
Alors revenons à ce que l'on sait de sa vie. On dit qu'il était charpentier, que Jésus quitte sa ville de Nazareth vers l'âge de 30 ans pour partir sur les chemins, prêcher autour de lui. Les prédicateurs, ceux qui prêchent, c'était courant à l'époque.
Oui, c'était courant. Il y avait à l'époque de Jésus, vraiment, dans le monde juif, un intérêt pour le religieux qui était énorme. La pensée que, finalement, la fin des temps ne serait peut-être pas si lointaine que ça, Et dans le monde juif, le politique et le religieux, en plus, étaient complètement mêlés. Donc des prédicateurs, il y en avait beaucoup, en particulier des prédicateurs qui trouvaient que les prêtres du temple ne faisaient pas bien leur travail. Et l'un d'eux, je crois que c'est très très important pour connaître la vie de Jésus, l'un d'eux c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste essayait de promouvoir une religion pure. Et Jésus l'a suivi. Enfin, je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a été le disciple de Jean-Baptiste. Après, bon, les évangélistes se sont servis de cette chose dont on est absolument certain, historiquement, pour dire que Jésus était au-dessus, avant, etc. Alors là, on n'a pas de certitude historique. Mais par contre, on est certain que Jésus a été le disciple de Jean-Baptiste.
De même qu'on est certain qu'il a été baptisé.
Très probablement. Très probablement. Alors, les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire les Matthieu, Marc et Luc, disent qu'il a été baptisé. Jean ne dit pas qu'il a été baptisé, mais qu'il a rencontré Jean-Baptiste. La plupart des historiens, oui, pensent que Jésus a été baptisé. C'est un fait avéré. Je crois qu'on peut dire pourquoi. Parce que si vous voulez, c'était quand même très, très, très fort que Jésus soit baptisé, puisque Jean-Baptiste baptisait pour le pardon des péchés. Les chrétiens qui ont écrit les évangiles par la suite pensaient que Jésus n'avait jamais péché. Donc, l'idée que Jésus puisse être baptisé, ça ne pouvait pas entrer dans leur logique de pensée. Donc, s'ils l'ont écrit, c'est forcément vrai, parce qu'ils ne pouvaient pas inventer une chose pareille. Ils ne pouvaient pas inventer quelque chose qui était contraire à ce qu'ils croyaient. Donc, tous les historiens pensent que oui, Jésus a été vraiment baptisé.
Et les miracles ? Alors, il a fait des miracles ?
Oui. C'est une question qui, en général, intéresse beaucoup.
Ben alors, oui, ça touche au merveilleux, on aime bien ça, en général.
Voilà. Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il faut se dire aussi. À l'époque, il y avait beaucoup de miracles. Tout le monde faisait des miracles. Pas tout le monde, mais tous les hommes qui avaient du charisme, tous les hommes qui avaient un rôle dans la société faisaient des miracles. Donc, Jésus a-t-il fait des miracles ? Oui. Et preuve en est que dans les évangiles, quand quelqu'un lui fait des reproches à propos de ses miracles, personne ne doute qu'il a fait des miracles. Hein. Ce qu'on lui reproche, c'est de les faire au nom des démons. Alors, ses adversaires lui disent « Mais attends, c'est pas au nom de Dieu que tu fais des miracles, tu fais des miracles au nom des démons. Bon. » Et puis, tu fais des miracles le jour du sabbat. Alors ça, quelle horreur. Bon. Mais des miracles, il en a certainement fait. Simplement, après, ça dépend ce qu'on entend par miracle. Alors, la notion de miracle en elle-même, elle est contestable par l'historien du XXIe siècle. C'est très difficile à dire à quoi peuvent correspondre ces miracles, en quoi ils consistent. C'est vrai que la médecine n'était pas la même que maintenant. C'est vrai qu'on n'avait pas la même notion du merveilleux. Donc là, il faut poser une question. Mais ce n'est pas une question sur les miracles de Jésus, c'est une question sur les miracles en général. Et je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la chose qui est certaine, et c'est ça qu'il faudrait dire aux gens qui écrivent les livres pour les élèves en classe, c'est que le miracle n'est certainement pas la preuve de la place de Jésus, du rôle de Jésus, encore moins qu'il est le Fils de Dieu ou je ne sais quoi, parce que justement tout le monde en faisait. Donc quand on lie la figure divine de Jésus au miracle, non. Qu'il ait fait des miracles, oui, mais que ça prouve quoi que ce soit, non. Enfin, ça, je crois que c'est très important. Après, et puis alors je crois que l'autre chose importante, la seconde, c'est que Jésus donne sens à ses miracles. Toujours il dit aux gens, ta foi t'a sauvé. Si vous voulez, par le miracle, il essaie toujours de mettre les gens dans un autre chemin. Hein. Il essaie de mettre les gens sur un chemin. Bon, chose que ne faisait pas systématiquement, je ne dis pas jamais, mais que ne faisait pas systématiquement tous les gens qui faisaient des miracles.
Oui, c'est aussi ce qui peut-être le rendait à part parmi tous ces prédicateurs de l'époque.
C'est certainement une des choses qui était importante, oui.
Alors, on va continuer encore un petit peu sur ces questions de base avant de passer à la seconde partie de votre livre. On a parlé de ta naissance, un peu de sa vie, il va falloir parler de sa mort. Les évangiles parlent d'un procès et d'une condamnation à mort par crucifixion. Ça s'est passé comme ça ?
Alors, d'abord une première remarque, c'est la longueur de ce qui concerne la mort de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, des personnes qui ont déjà vu un évangile, en général, ce qui concerne la mort de Jésus et sa crucifixion, ça prend à peu près au moins la moitié. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu sur le début, et la mort et la crucifixion, enfin, le procès, pardon, et la crucifixion, la moitié. Bon, est-ce que ça s'est passé comme ça ? C'est très difficile, il faut prendre terme à terme. Oui, Jésus a été pris par les Romains. Il a été crucifié. C'est le châtiment que donnaient les Romains à tous ceux qui étaient des ennemis de l'État. Ça, on en est sûr. Après, comment ça s'est passé exactement, c'est très difficile à dire. Les évangiles sont assez proches les uns des autres sur ces questions, mais pas quand même exactement similaires. Et en particulier, pour le procès, on n'a pas d'éléments sûrs. D'autant plus que bon, un des centres du procès de Jésus, c'est sa comparution devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'ensemble des responsables, des hauts responsables juifs, mais personne n'y était. Donc ça a forcément été reconstitué par la suite. Donc, on n'a pas d'éléments très sûrs. Mais par contre, l'événement, oui, l'événement, on en est sûr.
L'événement de la crucifixion
en
lui-même.
Tout à fait.
Et la résurrection ?
Alors ça, c'est d'un tout autre ordre. C'est d'un tout autre ordre. D'ailleurs, le mot de résurrection n'est jamais prononcé dans les évangiles. Les mots que l'on a en grec signifient « se lever » ou « se réveiller ». Et je crois que c'est très important de voir que ces mots, « se lever » et « se réveiller », sont employés dans d'autres endroits des évangiles qu'au moment de la résurrection. Quand Jésus dit, par exemple, à une personne qui l'a ressuscité « lève-toi », il emploie exactement le même mot. Et même pas forcément pour se lever après la mort. Hein, la belle-mère de Pierre, bon, j'ai pris cet exemple-là, elle était malade, Jésus le touche et elle se lève. C'est le même mot. Bon. Donc déjà, ce mot n'existe pas. Par contre, alors, la chose qui est certaine, c'est que au moins trois évangélistes, Matthieu, Luc et Jean, disent que, après sa mort, Jésus s'est fait voir, ou Jésus a été vu. Voilà ce qu'il y a dans les évangiles. Bon, donc, il a été vu par des personnes qui avaient cru en lui avant sa mort. Donc, qui avaient déjà une foi. Donc, croire ça, le dire et le croire, c'est un acte de foi. Bon, mais qu'on est obligé de prendre en compte d'une façon extrêmement sérieuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Pas tous, et seulement des croyants, mais il y en a beaucoup. C'est à la fois très sérieux, mais ce n'est absolument pas quelque chose d'historique, parce que ce n'est pas un événement.
Oui, c'est ça. Vous dites dans ce livre, il faut quand même retenir cette affirmation répétée de la part de ces témoins.
C'est une affirmation qui est extrêmement sérieuse, par sa multiplicité, par le fait aussi, je crois qu'on peut analyser tous ces textes qui parlent de la résurrection. C'est pas de l'hystérie collective. Hein. Ce sont des personnes séparément et qui ne se sont pas dit, qui n'ont pas vu de la même manière, enfin qui n'ont pas la même réaction. Donc c'est vraiment des expériences personnelles de pas mal de gens. Bon, et ce qui fait que de toute façon l'historien, même si ça l'intéresse pas, hein, le fait que Jésus soit fait voir, l'historien est obligé de le prendre en compte. C'est quand même les conséquences que cette croyance a pu avoir par la suite, à savoir la naissance de groupes chrétiens qui ont abouti maintenant, alors je ne sais plus combien de milliards il y a de chrétiens sur la planète, mais enfin, suffisamment pour que l'histoire s'attarde sur l'origine de cette foi.
Alors, vous avez tout à l'heure évoqué l'épisode de la belle-mère de Pierre. Ça, vous en parlez dans la troisième partie de votre livre. Mais on va d'abord voir la seconde. Alors, dans la deuxième partie de votre livre, Françoise Ladouès, elle s'appelle « Source et approfondissement ». Donc, elle vient après la première partie, les questions de base, « Source et approfondissement ». Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette deuxième partie ?
Ben, j'ai voulu essayer de montrer un petit peu les tenants et aboutissants de ce que je disais. On me dit « Jésus existe-t-il ? » Oui. Que connaît-on de sa vie ? Je raconte en deux pages. Enfin, je donne des réponses simples au début pour personnes qui ne connaissent rien. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant quand même pour les lecteurs de savoir où j'ai été prendre tout ça. Donc voilà, j'ai essayé de parler un petit peu de ceux qui avaient parlé de la vie de Jésus, qui sont les évangélistes, mais il n'y a pas seulement, il y a aussi des historiens anciens.
Alors voilà, justement, on va le voir. Quelles sont les sources dont on dispose pour parler de la vie de Jésus ?
Alors, de sources non chrétiennes, il n'y en a pas énormément. Suffisamment quand même, justement, pour justifier qu'on est sûr de l'existence de Jésus. Alors, il y a des historiens, et Suétone, Tacite. Bon, il y a Pline le Jeune, qui a fait une correspondance avec Trajan, l'empereur de l'époque, justement, la question était non pas de parler de Jésus, parce que ça ne l'intéressait pas trop, c'était un épiphénomène qui était un petit peu loin, mais par contre, il commençait à y avoir des gens qui se réclamaient de Jésus. Donc, on a parlé de chrétiens. Donc, on se disait, qu'est-ce qu'il faut en faire de ces chrétiens? Parce que dans l'Empire romain, ça faisait drôle d'avoir ces gens qui refusaient absolument le culte de l'empereur et qui disaient, nous, on a notre culte à nous. Quoi.
Les chrétiens, ça vient de Christ.
Exactement, voilà. Bon, ça, c'est une autre question, si ça vous intéresse. Mais, voilà. Mais, donc, on a donc des sources qui attestent l'existence de Jésus et le fait qu'il était, finalement, quelqu'un que des gens ont suivi. Voilà. Il a été à l'origine, donc, de gens qui ont suivi. Et puis, il y a aussi un historien juif, donc juif qui n'est jamais passé au christianisme, qui est Flavius Joseph et qui a pas mal parlé aussi de Jésus, qui est important.
Et donc on a les sources chrétiennes, les évangiles, tout le Nouveau Testament.
Alors essentiellement les évangiles, pas tout le Nouveau Testament parce que ce ne sont pas des sources. Le Nouveau Testament c'est l'ensemble des textes qui parlent de Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'il raconte sa vie ou qu'il permet de le connaître. Plusieurs personnes m'ont dit mais pourquoi vous n'avez pas parlé de saint Paul dans votre livre? Mais parce que saint Paul n'a jamais parlé de Jésus. Saint Paul justement parle, ça va vous faire une transition terrible. Saint Paul parle du Christ ressuscité. Mais par contre on se demande même s'il connaissait la vie de Jésus. Peut-être la connaissait-il, mais pas forcément et pas complètement. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Il ne parle jamais des miracles, il ne parle jamais des béatitudes, il ne parle jamais des paraboles. Voilà. C'est juste le kérigme, Christ est ressuscité. Le kérigme, la profession de foi. La profession de foi. Donc voilà, Paul ne dit que ça. Donc, quand on veut connaître le personnage Jésus, Paul n'est pas très utile. Paul est très utile après si on veut voir comment est née la religion chrétienne.
Voilà, finalement, Paul est utile pour connaître Christ, voilà. Mais pas pour connaître Jésus.
Voilà.
Vous faites cette différence, cette nuance dans le livre.
Oui, là, j'ai fait tout un chapitre sur ça.
Donc, les évangiles, on en connaît quatre, ceux selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, qu'est-ce qu'on sait de leur rédaction?
Si vous voulez, on a une chose en commun à tous les évangiles. Ils ont été écrits au plus tôt, le premier, en 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire une grosse génération après Jésus. Alors, dans l'ordre, très probablement, même si, vous savez, je ne peux pas le dire à chaque phrase, mais à chaque phrase, il faudrait que je commence par « très probablement ». Parce qu'on est absolument sûr de rien, et les historiens ont toujours des discussions fort intéressantes sur toutes ces questions. Le plus ancien, probablement Marc, qui a écrit juste après 70, la chute du temple de Jérusalem, c'est le moment donc où les Juifs ont été chassés par les Romains et où Titus a envahi Rome. Donc le plus ancien, Marc. Ensuite, Matthieu. Luc, plus tardif, certains maintenant ne le datent qu'après 90, mais plus traditionnellement, on le date entre 80 et 90. Et en dernier, Jean. Jean, dernière décennie du premier siècle. Bon. Alors, je vais quand même essayer de faire une vision générale, puis après, si ce n'est pas assez précis, vous me poserez des questions. Tous ont eu un lien, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a eu un apôtre ou quelqu'un qui a connu de près Jésus. Mais ce n'est pas cette personne qui a écrit. Je crois qu'il faut se dire que Jésus n'a rien écrit, évidemment.
Et enfin, évidemment, c'est quand même intéressant de le signaler.
Je le signale. Donc, Jésus n'a rien écrit. Et les disciples, les apôtres qui étaient autour de lui, les disciples qui étaient avec lui, n'ont rien écrit non plus. Il ne faut surtout pas s'imaginer que ils ont tenu un journal de bord en disant « Tiens, oulala, le maître a dit ça ». Non, pas du tout. Et il faut comprendre qu'ils n'ont rien écrit parce que tout le monde à cette époque-là croyait que la fin du monde était proche. On croyait que Jésus allait revenir chercher les gens à qui il avait parlé assez rapidement. Donc, à quoi ça aurait servi d'écrire sa vie? Donc, personne n'a rien écrit. Donc, c'est plus tard, quand Jésus n'est pas revenu tout de suite, et que finalement, il y a des gens qui sont devenus chrétiens, qui ont commencé à se réclamer de Jésus de la génération après, qu'il a fallu leur apprendre ce que Jésus avait fait, ce qu'il avait dit, etc. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à écrire. Donc, les premiers qui ont écrit, Ce sont des gens qui ont connu des gens qui ont vécu avec Jésus, mais ce n'est pas eux-mêmes. Bon. Et donc, c'est la génération après, voire la génération encore après. Alors, je peux entrer dans les détails si vous voulez pour chacun, mais il y a quand même une grosse génération, voire deux, d'écart entre ceux qui ont écrit et les apôtres.
Même pour Marc, qui serait donc le plus ancien ou le plus proche de la vie de Jésus.
Même pour Marc, 70... De toute façon, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que jamais les évangiles n'ont été écrits par une personne. Ils sont signés d'un nom, mais c'est jamais une personne qui a écrit. La notion de propriété intellectuelle, ça n'existait pas à l'époque. Si vous voulez, moi, si vous prenez mon livre et que vous mettez, vous changez, vous barrez, vous mettez Emmanuel Labaïs, ça ne va pas me faire plaisir. À l'époque, c'était pas du tout, on n'était pas du tout dans cette conception-là. Et je crois qu'il faut vraiment voir les évangiles comme issus de communautés. Si vous voulez, c'est des communautés de chrétiens qui se sont inspirés justement de ce qu'avait dit l'un ou l'autre apôtre ou disciple de Jésus, qui ont utilisé ce que ces apôtres ou disciples avaient dit essentiellement pour la célébration, hein, parce qu'au 1er siècle, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se réunissaient le dimanche, le lendemain du jour du sabbat. Le jour du sabbat, ils fêtaient le sabbat avec les juifs, et puis le lendemain, ils faisaient une célébration eucharistique, parce qu'ils étaient encore juifs. Hein. Donc, ils ont créé des textes qui étaient essentiellement pour la célébration, et finalement, c'est les communautés qui les ont mis en forme. Et
après, oui, communautés, pardon, d'intellectuels ou des communautés de base ?
Non, des communautés chrétiennes, des communautés... Oui, le terme de communauté de base est un peu moderne, mais oui, des communautés de chrétiens. Hein, et qui se sont un petit peu réparties dans tout le Moyen-Orient. Donc, il y en a qui sont restés vers Jérusalem, il y en a qui sont allés vers Rome, il y en a qui sont partis en Asie mineure. Bon, par exemple, Marc, probablement, l'évangile de Marc est issu d'une communauté qui est allée vers Rome. Par contre, l'évangile de Jean est issu d'une communauté qui est partie vers l'Asie mineure, Éphèse et tout.
Et comment on le sait, ça ?
Alors, c'est assez compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais je crois finalement que le plus important, c'est on le sait à travers les textes eux-mêmes. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, que pour lire les textes d'évangile, on avait souvent des méthodes critiques. Alors, on dit souvent, en matière d'exégèse, historico-critique, donc faisant appel au contexte. Mais là, le plus important n'est pas le rapport à l'histoire. C'est en lisant les textes, rien qu'en regardant la langue, hein, la manière dont c'est écrit, et à qui ces textes s'adressent. On voit par exemple que Matthieu, il s'adresse à des juifs, à des gens qui sont encore juifs, qui sont très marqués, donc ils ne sont certainement pas très loin de Jérusalem. Il s'adresse à des juifs, et puis à côté de ça, il s'adresse à des gens qui ne savent rien du tout, un peu comme moi dans mon livre, à qui il faut tout dire parce qu'ils ne savent rien. Donc on voit que l'évangile de Matthieu, c'est un évangile à la fois juif et païen. Par contre, on voit que Luc s'adresse à des Grecs, et on le voit à la langue, hein, et à la manière dont il tourne ses phrases, et même au mode de pensée. Hein. Bon, voilà. Alors après, il y a d'autres détails, mais il faut aller voir le livre. Et puis, si on est intéressé, c'est même pas suffisant, mon livre. Il y a des références bibliographiques, et il y a des auteurs qui vous donneront tout ça.
Je crois pas que vous le précisiez dans ce livre, mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés, du coup, si ça a été écrit par des communautés, pourquoi est-ce que ça a été attribué à un certain Matthieu, à un certain Marc ? Pourquoi on leur a donné ce nom-là ?
Alors, je crois pas que j'en ai beaucoup parlé, parce que, si vous voulez, quand on a récupéré tous les textes et que l'on a fait ce qu'on appelle les évangiles canoniques, ce sont les églises, et puis l'église après Constantin, qui a voulu avoir les textes en ordre, si j'ose dire. Bon. Il était très important que, pour les chrétiens, nous, disons... Alors, pareil, on n'a pas une date précise. Ça a commencé un peu au IIe siècle, ça a été définitif au IVe. Il était très important qu'on ait une référence apostolique. Pour les chrétiens, un texte était un texte qui était vraiment un texte de foi si on le faisait remonter à un apôtre, ou sinon à un apôtre, à quelqu'un de très près des apôtres. Bon, donc, les pères de l'Église qui ont assuré cette transmission ont fait remonter à Jean, le disciple bien-aimé, ça demanderait aussi de grandes explications. Marc, qui avait la réputation d'être un proche de Pierre. Luc, qui avait la réputation d'être un proche de Paul. Et Matthieu, qui était un apôtre aussi. Bon, mais voilà, c'était pour remonter à la filière apostolique. Et je ne voudrais pas, enfin comment dire, je déconstruis dans mon livre complètement l'idée que c'est les apôtres qui ont écrit. Par contre, je tiens absolument à préciser que la tradition apostolique est respectée. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans les évangiles est de tradition apostolique.
Remonte aux apôtres.
Absolument.
En quelle langue les évangiles ont été écrits ?
En grec. En grec, certains pensent que peut-être l'évangile de Matthieu aurait eu une première version araméenne.
L'araméen, la langue de Jésus.
La langue de Jésus. Mais de toute façon, on n'en a aucune trace. Donc, c'est une hypothèse. Mais il faut le dire, parce que si jamais un jour on retrouve un texte en araméen, bon, ben, on sera... Voilà.
Bon, alors, après les questions de base, après sources et approfondissements, vous avez intitulé votre dernière partie « Lire ». Je la trouve un peu différente des deux autres. Là aussi, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette partie ?
Alors, je peux le dire à plusieurs niveaux. Bon, je vais le dire au niveau le plus simple, parce que ce sera facile à comprendre, mais les deux premières parties, ça va bien pour les professeurs d'histoire. La troisième, ça ira bien pour les professeurs de lettres. Et j'ai même donné à la fin un petit questionnaire qui permet de traiter ces textes d'évangile au cours de français. Au cours de français, en classe, hein, ouais. Pas un cours de religion. Voilà. Bon, alors, dit autrement, c'est une approche des textes, une approche, disons, profane, littéraire, en essayant d'utiliser tous les outils qu'on a pour lire un texte. Et j'ai essayé aussi d'utiliser à la fois un peu l'outil historique, l'outil narratif, c'est-à-dire regarder le texte à la fois en diachronie, hein, avec...
Pardon ? Quelqu'un a compris ?
Pourtant, j'explique tous les mots.
Oui, hein. J'explique
tous les mots. C'est-à-dire, en prenant en compte le fait que le texte a été écrit et qu'il y a des strates dans l'écriture du texte.
Ah, c'est ça, la diachronie.
Voilà. Et aussi en synchronie, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a un lecteur, et le lecteur, il prend le texte comme il est, comme il lui arrive, et c'est à ça qu'il a à faire, peu importe ce qui s'est passé avant. Voilà. Et j'ai essayé d'utiliser, de faire tout jouer. Bon, et de faire jouer aussi tous les modes d'approche que les élèves en classe ou les étudiants peuvent avoir. Alors, je vais être très claire là-dessus. Vous savez que les exégètes ont différentes méthodes d'approche des textes.
Donc les exégètes, c'est ceux qui étudient la Bible. Voilà. C'est d'expliquer la Bible.
Et alors souvent, ils se battent entre eux. Ah. Ils se battent. Alors, il y a les méthodes historico-critiques, il y a la méthode narrative, il y a la méthode sémiotique, il y a... Bon. À un certain niveau, ça a de l'intérêt. Et ça a même permis beaucoup de discussions, de bagarres, qui ont fait qu'on a appris beaucoup de choses. Mais au niveau où je me situe, on ne va pas mettre des élèves de troisième ou des étudiants à ce niveau-là. Et ce que j'ai essayé, c'est d'apporter un petit peu de chaque méthode qui permette d'entrer dans le texte, si vous voulez, de montrer aux gens qu'il y a une manière un peu... il y a des manières d'entrer dans le texte qui permettent de l'aborder par différentes portes. Voilà. Mais très simplement. Et...
Ce que vous dites, c'est que lire, dans cette partie, lire, c'est interpréter.
Ah, forcément. Alors ça, c'est vrai pour...
Pour tous les textes.
Mais pour tous les textes.
Particulièrement là.
Non, pas particulièrement là. Je pense que... Là, on est... Je suis très, très émue parce que j'ai en face de moi des enseignantes de français. J'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que, voilà, quand on lit un texte, bon, on essaie d'en découvrir le sens, mais à partir du moment où le sens arrive sur la personne qui lit, eh bien, le texte arrive sur une psychologie particulière, un esprit particulier, une manière de recevoir, et donc forcément le sens, il est entre le texte et le lecteur, il n'est pas dans le texte, comme s'il y avait un sens dans le texte qu'on pourrait mettre là.
Il n'y a pas de sens, pas caché, mais de sens intime au texte. Pour vous, c'est tout se passe dans la tête du lecteur ?
C'est la rencontre entre le texte et le lecteur qui fait sens, oui.
Vous dites aussi qu'il faut se méfier du contexte dans lequel on lit.
Se méfier.
Faire attention plutôt que se méfier, pas avoir une attitude de méfiance. Mais si on décide de... Parce que les évangiles, si on s'arrête là-dessus, on ne les lit pas dans leur intégralité. À chaque fois, on prend des passages. Vous dites que lorsqu'on a sélectionné un passage, d'accord, on l'a sélectionné, mais ce qui est important, c'est aussi d'aller voir ce qu'il y a eu juste avant et juste après.
Absolument, oui. Oui, donc, ce n'est pas le contexte historique. Absolument, non. Oui. Je crois que c'est important déjà de ne jamais prendre de tout petits bouts de texte. Ça allait me dire que pourtant je l'ai fait, mais enfin, j'ai justifié pourquoi, et toujours essayé d'expliquer pourquoi on a commencé à un endroit, pourquoi on finit à un autre. Hein. Parce que, et de toute façon, se poser la question, et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais continué un peu plus, ou si j'avais commencé avant? Parce que quelquefois, on se rend compte que ce serait très différent.
Alors dans cette partie, vous avez pris plusieurs passages, certains assez connus, d'autres un peu moins, des évangiles, et vous proposez des pistes de lecture donc, pour certains de ces passages. Alors, on va prendre peut-être celui qui est relativement connu, le passage dit des béatitudes. En quoi ce passage vous semble particulièrement intéressant pour cette partie de votre livre ?
Je l'ai pris, celui-ci, essentiellement pour la question du bonheur. Je me suis dit, à notre époque, ça peut intéresser les gens de voir que dans le texte évangélique, la question du bonheur est prise en compte. Et je crois que pour Jésus, c'était très important. Enfin, voilà. Après, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que justement, cette question du bonheur, elle était traitée de manière très différente chez Matthieu et chez Luc. Puisqu'il y a deux auteurs évangéliques qui parlent des béatitudes. Et voilà. Et Luc, qui parle un peu du bonheur de chacun, qui essaie de montrer le bonheur que Jésus propose est un bonheur pour après peut-être, mais pour maintenant tout de suite. Alors que Matthieu parle du bonheur d'une façon un petit peu plus moralisante. Un petit peu plus comme un projet, comme un objectif à atteindre.
Vous comparez aussi, terme à terme, les passages, voilà. En mettant en parallèle. Et ça peut aussi être une méthode de lecture.
Et je crois que c'est très important pour les trois premiers évangiles qu'on appelle synoptiques. Donc synoptiques parce qu'on peut les mettre en colonne face à face. Ils racontent à peu près la même chose. Quoique, ils parlent des mêmes événements, mais ils les racontent de façon très très différente. Je crois que c'est important justement de se rendre compte que le fait souvent est le même, mais ce qu'on peut en retirer est très différent. Ça montre bien que les évangiles sont des points de vue différents. Bon, je prends un exemple, je dis rapidement de la belle-mère de Pierre que
et
j'ai
pris.
On
va s'arrêter là-dessus.
Oui, parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de typique. Enfin, c'est l'histoire... Je ne sais pas si les personnes qui sont dans la salle le connaissent. Bon, c'est la belle-mère de l'apôtre Pierre qui est malade, Jésus qui vient. On lui dit, elle est malade, bon, il est en ses mains, il l'a guérie. Bon, en gros, c'est ça. Pourquoi y a-t-il trois évangélistes qui racontent ça? Ils disent la même chose. Eh bien, pas tout à fait. Et justement, on se rend compte que dans un des textes, on voit un Jésus qui est vraiment qui a pitié, qui essaie de secourir. Dans un autre, on voit Jésus qui est puissant. Dans un autre, on voit Jésus qui ne fait rien seul, qui ne fait que avec ses disciples. Donc, on a plusieurs approches de Jésus. Et puisque c'est la fin, je veux dire que c'est ça qui me semble important. On peut connaître Jésus de cette façon-là, bien plus que par sa biographie. Sa biographie, on ne sait pas grand-chose. Vous lisez les quatre premières pages du livre, ça suffit. Voilà. Par contre, connaître quelqu'un, on peut le connaître mieux par d'autres éléments qu'en connaissant sa biographie. Je vais dire autrement, je pense que, si ça vous intéresse, vous me connaissez beaucoup mieux de m'avoir entendu demi-heure vous parler que Emmanuel qui a raconté ce que j'avais fait pendant ma carrière. Voilà. C'est-à-dire que la biographie, ça peut servir, mais une approche plurielle avec différents points de vue de la personne, ça permet de connaître. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut un peu mieux connaître Jésus.
Bien, merci, Françoise Ladouès. On va s'arrêter là pour la présentation de votre livre. On en a dit beaucoup. Vous disiez 30 minutes, on a fait 50, en fait. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais la suite, elle est à découvrir dans ce texte, dans ce bouquin, qu'on peut ouvrir à une question précise, lire juste un chapitre ou en lire plusieurs. Ce sont des chapitres souvent courts, concis. Si on veut aller plus loin, il y a les références bibliques, des passages cités, des annexes, des cartes pour comprendre la Palestine du temps de Jésus, une bibliographie qui renvoie à des ouvrages plus étoffés. Voilà, votre livre est une porte d'entrée vers les recherches des exégètes, ceux qui tentent donc d'expliquer la Bible. Merci Françoise Ladouès. Eh bien, merci à tous d'être venu écouter Françoise Ladouès. Le livre « Jésus, qui est-il ? Approche culturelle » est publié aux éditions Nouvelle Cité. Merci à la librairie Mola d'avoir proposé, accueilli cette rencontre.